Aujourd'hui à Rencontre, une émission spéciale consacrée, disons, à ce que doit être l'homme et la femme selon Dieu. On se pose la question, est-ce que l'Église ne respecte vraiment l'homme? Est-ce qu'elle le respecte, l'homme, la femme? Est-ce qu'elle respecte l'être humain, quoi? C'est un problème que l'on se pose souvent. Et je vais essayer de vous montrer jusqu'à quel point l'Église respecte l'être humain et qu'elle est vraiment championne, si on peut dire. Dans ce sens-là, ça surprendra peut-être beaucoup de gens. Évidemment que nous savons que l'Église a été fondée par le Christ et qu'il est venu jeter dans le monde quelque chose de bien nouveau, un ferment nouveau. C'est l'Évangile, c'est son message. Il a aussi jeté dans le monde, si on peut dire, sans tout le respect que je dois à l'Eucharistie, il a jeté l'Eucharistie qui est source de vie divine, disons qu'il l'a répandue. Il n'est pas possible que tout, finalement, n'en soit vraiment changé. Ça a changé beaucoup de choses. Prenons simplement l'épître de la messe d'aujourd'hui. C'est une lettre de saint Paul qu'il adresse aux Romains au chapitre 13. C'est tout court, c'est tout beau et c'est un des plus beaux textes de l'histoire. Frères et sœurs, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et saint Paul termine en disant, l'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Écrit il y a 2000 ans. Et c'est très beau. Mais précisément, ce divin, comme on dit aujourd'hui, qui s'insère désormais dans l'humain, et par lui dans tout ce qu'il y a de temporel, est-ce que ça ne va pas bouleverser finalement l'organisation du monde créé? Ça devrait. Et nous, chrétiens, est-ce que nous n'allons pas payer bien cher, finalement, la faveur qui nous est faite de devenir enfants de Dieu dans ce monde et qui n'aime pas tellement la lecture que je viens de vous faire? En particulier, est-ce que nous devrions sacrifier les aspirations naturelles et légitimes de notre ère pour remplir notre mission? Est-ce qu'il faut toujours sacrifier tout, ce qui est humain, ce qui est naturel, pour être spirituel, pour faire ce que Dieu veut? Autrement dit, en devenant disciple du Christ, est-ce que nous ne sommes pas appelés, ou amenés en tous les cas, à être moins hommes, à vivre en somme comme des zombies, des espèces de zombies chrétiens qui circulent pâles, indifférents au monde, le chapelet à la main, l'eau bénite au bout des doigts? Il faut répondre par un non catégorique. Non pas qu'il ne faille pas rester le chapelet, qu'il ne faille pas se signer avec l'eau bénite. Mais il faut être des hommes et des femmes et des vrais. Le Rédempteur Jésus, le Libérateur, ne contredit pas le Créateur. La vie de Dieu en nous ne détruit pas la nature. Les vrais chrétiens sont de vrais hommes et de vraies femmes. L'Éternel ne diminue pas ce qu'on pourrait appeler le temporel. Bien au contraire, tout ce qui constitue ce temporel, l'homme tout d'abord avec ses inépuisables possibilités, la famille, l'État, le pays, société naturelle à l'homme, ça, mais le monde matériel lui-même, sont appelés à s'épanouir. À s'épanouir merveilleusement si l'humanité accepte le plan intégral de Dieu que nous croyons, nous, catholiques, avoir le mandat de diffuser avec nos frères chrétiens des grandes églises. Il faut le répéter, le Christ est venu parmi nous non pour anéantir l'œuvre de la création, mais pour l'achever, pour le parfaire, pour l'accomplir dans la grâce, c'est-à-dire dans la vie même de Dieu. Et la croix en est un symbole. Remarquez bien quand vous regardez une croix. Les deux bras, largement ouverts dans un grand geste d'accueil, c'est le Christ qui embrasse le monde entier. Pourquoi? Pour l'élever vers le Père. C'est ça un crucifix. Le corpus, comme on dit, le Christ là, sculpté là, le Christ en croix, ça nous rappelle cette immense offrande dans l'amour. Nous avons bien raison, nous, catholiques, d'avoir des crucifix comme ça avec le corpus. C'est pas une horreur, loin de là. C'est une merveille. Des amis musulmans parfois trouvent horrible ces crucifix chez moi. Mais non! Et telle est la volonté du Christ, telle sera la doctrine de l'Église, et tous ses efforts vont tendre à ramener toutes choses dans le Christ. C'est saint Paul qui le dit, hein? Tout récapitulé dans le Christ, tout recentré dans le Christ. Non pas pour en diminuer la valeur, non, évidemment pas. Mais au contraire, pour en épanouir les virtualités, les possibilités, à un degré que l'homme ne pourrait ni soupçonner, ni atteindre sans la grâce. Sans la grâce, c'est pas possible tout ça. C'est fantastique. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Ou bien sommes-nous endormis? La grâce ne saccage pas les lois naturelles, pas plus que la divinité, ça a blessé, ça a altéré la nature humaine de Jésus-Christ. C'est Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, qui dit en deux lignes ce qui suit. Le paganisme n'était pas l'ennemi de la nature, mais le christianisme seul agrandit la nature, l'exalte la nature. Elle met tout ça à la mesure de l'homme. Je me propose donc de montrer en détail que telle est bien l'attitude de l'Église à l'égard des valeurs strictement naturelles, mais au moment où nous allons étudier l'Église dans ses rapports avec le temporel, il y a trois remarques qui s'imposent d'abord. C'est que l'Église a le droit d'intervenir dans le temporel. Puis aussi que l'Église n'est pas chargée d'établir un ordre temporel. Elle n'est pas plus républicaine que monarchiste ou quoi que ce soit. Ça ne la concerne pas. Ça peut. Elle peut intervenir parfois au nom de l'Évangile. L'Église ne doit pas être finalement, en troisième lieu, ne doit pas être confondue avec certains de ses représentants. C'est sûr, ça, on le sait. On le sait. Donc l'Église a le droit d'intervenir dans le temporel. L'Église a pour mission proprement dite de faire connaître aux hommes et aux femmes leur destinée surnaturelle et de leur donner les moyens de l'atteindre. Mais cette destinée-là, là, elle est étroitement conditionnée, si on peut dire, par la manière dont l'homme et la femme vont remplir leurs tâches terrestres. Et dès lors, la mission spécifique de l'Église, bien, elle inclut celle de rappeler aux hommes et aux femmes leur destinée naturelle. De veiller à ce qu'ils respectent l'ordre temporel établi par Dieu. Et l'Église reste donc dans son rôle quand elle précise les droits naturels de l'homme ou de l'être humain. Droit, par exemple, à la vie. Elle est un défenseur de la vie. On lui reproche ça simplement parce qu'elle est catholique. C'est pas parce qu'elle est catholique, c'est parce qu'elle est humaine. Le droit au travail aussi, le droit au salaire juste, le droit à la propriété privée, elle défend ça, l'Église, elle prend la défense de ça. Elle le rappelle, elle rappelle les droits puis les devoirs de la famille puis de l'État, etc. Que d'encycliques, que de lettres pastorales de nos évêques. Sur toutes les questions importantes dans l'ordre temporel, qu'il s'agisse de l'éducation de la jeunesse, des rapports entre, disons, le capital et le travail, les problèmes du cinéma, de la presse, de la télévision, du concept de la race ou de la nation aussi, de la distribution des biens matériels, la répartition des richesses, etc. L'Église a le droit, elle a même le devoir, je dirais, d'intervenir pour rappeler les principes selon lesquels ces questions doivent être résolues et pour condamner tout ce qui mettra en danger la destinée surnaturelle de l'homme. Je vous ai dit aussi que l'Église n'est pas chargée d'établir un ordre temporel. Et la seule mission de l'Église est d'aider l'homme à réaliser sa destinée surnaturelle. C'est ça sa mission. Elle ne peut, l'Église, puis elle ne doit s'occuper du temporel que dans ses rapports avec tout ce qui est éternel, avec Dieu. L'Église n'est donc pas chargée d'établir un ordre temporel. Je vous l'ai dit, elle n'est pas mandatée pour remplacer la famille et l'État. Elle est tenue, au contraire, de reconnaître puis de respecter les droits légitimes de la famille puis de l'État. Et même de prendre leur défense contre ceux qui pourraient refuser de s'y soumettre, ça existe. Il s'ensuit donc qu'il ne faut pas demander à l'Église plus qu'elle n'est chargée de donner. Par exemple, l'Église peut rappeler la nécessité de veiller à la santé du corps, mais elle n'est pas chargée de chercher la meilleure méthode d'éducation physique. Cependant, si une méthode proposée par des particuliers ou par l'État entre en contradiction avec la loi morale, par exemple en prônant non la culture, mais le culte du corps, comme ça s'est vu en régime nazi, elle a le droit et le devoir de la désapprouver. Et aujourd'hui, il y a un culte du corps qui est épouvantable avec les anabolisants, etc. C'est terrible. Et l'Église a le droit d'intervenir là-dessus, parce que c'est contraire à la fin surnaturelle de l'homme. L'Église peut rappeler aussi que l'habitation doit rendre possible la présence et l'éducation de plusieurs enfants, au sein de la famille. C'est pas possible, ces petits appartements que l'on construit sans cesse aujourd'hui. Mais elle n'a pas quand même à indiquer le style puis la disposition qu'une maison doit avoir. C'est pas ça que... Mais elle peut puis elle doit, l'Église, se montrer défavorable à tout genre d'habitation, d'appartement, de maison qui exclut pratiquement la possibilité d'élever des enfants. L'Église peut rappeler quelle est la mission de l'État, mais elle n'a pas à définir si celui-ci doit être monarchique ou républicain, comme je vous ai dit. Cependant, si un gouvernement outrepasse ses droits puis viole ceux de l'individu ou de la famille, mais elle doit élever la voix. Oui, elle doit élever la voix pour protester, c'est évident, autrement elle manque à sa mission. Et l'Église n'a pas non plus à fixer, disons concrètement, le montant du salaire de l'ouvrier. Cependant, elle peut, puis elle le se permettre, elle le fait d'ailleurs, de rappeler que ce salaire doit permettre au père ou à la mère de soutenir une famille raisonnablement, et dès lors, elle doit condamner un régime économique libéral exploiteur de plus en plus, ce qui se fait actuellement dans l'univers, c'est épouvantable, qui en fait prive nos ouvriers d'un salaire familial. Et ainsi de suite, les évêques du Québec n'ont jamais manqué à leur devoir dans ces domaines. N'attendons donc pas tout de l'Église. Faut pas lui faire grief et lui reprocher de ne pas nous guider dans les moindres démarches de la vie. D'ailleurs, pensez-y deux secondes. Un menuisier ne demande pas à l'architecte la meilleure manière d'enfoncer des clous. Un plombier n'exige pas qu'on lui indique comment faire une suture. Mais tous les corps de métier sont en droit d'attendre de l'architecte qu'il communique un plan suffisamment détaillé de la maison à construire. Il en est de même de l'Église. Elle a reçu mission, elle, de préciser les principes selon lesquels doivent être résolus les problèmes d'ordre temporel. Mais elle laisse aux individus et aux sociétés le soin de chercher des solutions pratiques. Elle approuvera donc toute solution, l'Église, qui est conforme à la nature des choses, à la destinée surnaturelle de l'homme et de la femme. Là, elle va condamner toute solution qui sera en contradiction avec cette destinée surnaturelle essentielle à l'homme et à la femme. Par ailleurs, l'Église devra respecter les droits légitimes de l'individu, de la famille et de l'État. Et si elle les violait, elle fournirait du même coup la preuve qu'elle n'est pas d'origine divine, car Dieu ne se contredit pas dans ses œuvres. J'espère que vous comprenez ça, puis nous allons aboutir petit à petit à Jésus-Christ et à ce que demande Jésus. Vous allez voir comme ça va être beaucoup plus mystique, beaucoup plus spirituel. Je vous ai dit tout à l'heure que Avant d'étudier, bon, l'Église en ses rapports avec le temporel, il y avait trois remarques, là. Que l'Église a le droit d'intervenir dans le temporel, je vous expliquais ça, puis que l'Église n'est pas chargée d'établir un ordre temporel non plus, mais je vous ai averti tout à l'heure que l'Église ne doit pas être confondue avec certains de ses représentants, c'est délicat ça, hein? Mais faut rappeler, avec le père Lelotte dont je m'inspire, jésuite, rappeler que l'Église, qui est divine par son origine, elle est divine aussi par la mission qu'elle doit remplir parmi nous, mais elle est confiée à des hommes. Puis c'est évident que quand c'est confié à des hommes, ben il y a de l'humain qui se mêle inévitablement au divin, puis il faut donc s'attendre à voir des chrétiens, puis même certains dignitaires ou mandataires de l'Église, comme on dit, agir à l'encontre de la doctrine qu'ils ont mission de propager. Ça arrive. Je me souviens que c'est sous Louis XIV, je pense, que l'archevêque de Paris se déclarait athée. C'était tellement épouvantable, c'était des hommes qui étaient placés là par les pouvoirs politiques, placés par le roi. L'Église a eu beaucoup à souffrir de tout ça, hein, de cette union de l'Église et de l'État, c'est épouvantable. Et il faut pas reprocher ça à l'Église. Quand, tout à l'heure par exemple, je vous parlerai de l'attitude de l'Église à l'égard du corps humain, et que je vous dirai de quelle sympathie elle entoure le corps, ce sera pas difficile de se souvenir pour certains d'entre nous qui ont un certain âge, d'un prêtre ou même d'un évêque peut-être, qui se montrait autrefois, oui, il y a bien longtemps, adversaire du développement de la culture physique parmi la jeunesse. On n'aime pas tellement ça dans certains diocèses lointains, là. Il y a longtemps. Mais quand je vous dirai que l'Église est très favorable au progrès de la science, il ne faut pas non plus un grand effort de mémoire pour se rappeler qu'en telle circonstance, là, d'un de ses représentants a condamné, cependant, disons, les découvertes scientifiques de Galilée. Bon, le pape a demandé récemment, si on peut dire pardon pour cette erreur. Mais quand on étudie bien le cas de Galilée, je le vous l'ai déjà fait dans une émission, c'est pas tout à fait ce qu'on raconte en général. Hein. De toute façon, il faut loyalement reconnaître qu'il y a eu, qu'il y a encore dans l'Église des laïcs et des prêtres négligents. Des laïcs aussi, hein? Négligents, incompétents, même indignes. Comme il existe des médecins puis des avocats qui sont inférieurs grandement à leurs tâches, c'est partout comme ça dans tous les domaines. Cessons d'accuser le clergé et regardons autour de nous ce qui se passe chez nous parmi les laïcs. Moi qui suis laïc, bon, vous pouvez m'accuser de bien des choses d'ailleurs. Et vous aurez raison. Cela ne doit pas nous empêcher de voir la lumière extraordinaire que l'Église projette, n'est-ce pas, sur les problèmes humains. Puis, ça ne nous empêche pas non plus de remonter à la source d'où vient cette lumière qui c'est le Christ Jésus qui est fondateur de l'Église catholique et qui s'est défini lui-même la lumière. Alors, cela dit, bien, on va examiner d'abord l'homme, la femme, nous-mêmes. Puis, compte tenu des remarques qui précèdent, nous allons voir quelle attitude l'Église prend devant les valeurs humaines. Il y a la valeur de la personne humaine. Un problème à ne juger que par les apparences, la vie d'un individu, c'est peu de chose. Hein? Quand on y pense deux secondes, je ne veux pas vous décourager, là. Mais on est, on vit, bon, puis on meurt. Oh, ça dure quelques années. Hein? J'avais 20 ans, me semble, il y a quelques mois. Mais 71 ans maintenant, ça a passé si vite. Puis, c'est la disparition, on disparaît, on se demande, d'après les funérailles, de quoi est-il mort? Et le lendemain, on n'en parle plus. Hein? Oui, nous sommes tous peu de choses, en apparence, mais on se résout pas volontiers à cette disparition, l'ensemble. C'est pas facile d'accepter qu'on disparaît totalement, instinctivement. Nous, hommes et femmes, nous aspirons à durer, à nous accrocher à ce qui dépasse la durée d'une existence terrestre. Mais qu'est-ce qui dure au-delà d'une vie terrestre? Il y a deux réponses qui sont possibles. Ou bien c'est l'individu lui-même qui survit, ou bien c'est un autre élément que l'individu. Alors, toutes les doctrines qui se disputent actuellement le monde ont résolu chacun à leur manière là, ce problème extrêmement important, puis ils s'efforcent de faire triompher leur point de vue. Ce qui dure au-delà de la vie terrestre de l'individu, ben, ça va être l'espèce humaine. C'est ce que pensent les gens, l'espèce humaine. Bon, nous sommes faits pour nous reproduire puis perpétuer l'espèce humaine. Ça finit là. Alors, l'individu, lui, il est voué au néant, mais l'humanité seule va continuer à subsister. Tant que va durer la Terre. So what? L'idéal de l'individu sera donc alors de travailler pour ce qui le dépasse, de se sacrifier pour la collectivité. Puis, il va chercher à assurer aux générations là, qui vont venir après lui un bonheur terrestre plus grand que celui qu'il a connu, puis dont lui-même ne jouira pas, hein, c'est qu'ils aient plus d'argent, puis des plus belles maisons. C'est l'idéologie communiste, somme toute, dans ce qu'elle a d'essentiel, on peut dire. On peut poser encore la question, ce qui dure au-delà de l'individu, c'est sa race, disent d'autres. Ce qu'il faut donc faire triompher, c'est cette race. Et l'individu ne vaut que dans la mesure où il enrichit sa race, là. Il est nuisible dans la mesure où il l'affaiblit. Que ce soit volontaire ou involontaire. Alors, on rentre dans l'idéologie raciste à ce moment-là. C'est pas drôle. Où l'individu doit se sacrifier pour garder sa race pure et forte. Il faut éliminer l'influence des autres races. Alors, il faut faire disparaître les individus difformes. On y est, hein, on fait ça avec l'échographie aujourd'hui. Dès qu'un individu difforme se présente en échographie dans le sein de sa mère, les morts. On veut supprimer les individus tarés, hein, on l'a fait, ça s'est fait dans ce siècle-ci. On en a tué je sais pas combien. Il y a des films qui nous les montrent même. Oui, des vrais documents. Ou bien les individus inutiles aussi. On cherche à regrouper les diverses fractions de la race, là, pour conquérir l'espace vital nécessaire au développement normal de la race, etc. Alors, on agrandit le pays, on conquiert. Et telles seront les conséquences très logiques de ce principe qui est posé, là, les droits de la race avant tout. C'est terrible. Et si on est persuadé que, d'après les lois profondes de l'être, une race est appelée à dominer les autres, c'est encore pire, toute l'activité du monde n'aura pour but que de faire triompher les droits de la race élue. Les Ariens, on a vu ça au milieu du siècle. Et nous voici au cœur de la conception hitlérienne. Ce qu'on appelait le pan-germanisme, une conception qui a mené l'Allemagne à sa perte en 1945. Ce qui dure au-delà de l'individu, finalement, il y en a qui disent c'est la nation à laquelle il appartient. Dès lors, l'individu doit tout subordonner à l'intérêt de sa nation. Son activité, sous tous ses aspects, doit concourir quoi? À défendre les droits de la nation, puis à réaliser ses aspirations. Et lui-même n'a que les droits dont la nation veut bien le gratifier. Nous sommes alors dans le groupe bigarré là, de certains nationalismes exacerbés et fanatiques. Heureusement, ce n'est pas le cas chez nous. J'ai l'impression au Québec, il n'y a pas ça. Et ainsi de suite. Toutes ces doctrines ont ceci de commun. Qu'elles sacrifient l'individu au profit d'une autre entité terrestre. Et l'individu destiné à disparaître doit se subordonner à ce qui ne disparaît pas, là, la race, la nation, l'humanité, la science, le progrès, le confort, etc. Et l'Église prend la contrepartie de toutes ces théories. L'Église déclare que seul l'individu est éternel. L'Église revendique pour lui la première place. L'Église ne voit pas dans l'individu une unité qui est perdue dans la masse, là. L'Église lui reconnaît une valeur absolue. Elle en fait un être sacré. L'expression « personne humaine » veut précisément indiquer la valeur absolue de tout individu à l'égard de ce qui l'entoure. C'est pour ça que je vais utiliser cette expression à l'avenir. « Personne humaine ». Il est quand même évident que l'Église ne rejette pas du tout la notion d'humanité, de race et de nation. Bien au contraire, elle affirme, comme nous le verrons plus tard, leurs droits, les droits respectifs de ça. Mais elle ne leur donne qu'une valeur, disons, transitoire, parce que c'est subordonné à la valeur humaine. C'est la valeur humaine qui compte pour l'Église. Oui, le psaume aujourd'hui, à la messe, c'est le psaume 111. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Et son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira. Et sa gloire. Oui, on prie là-dessus aujourd'hui, dans toutes les églises catholiques dans le monde. Que c'est beau. un auteur qui dit à un moment donné, au sujet de ce dont je vous parle aujourd'hui, est-ce que l'Église respecte l'homme et la femme? Est-ce qu'elle respecte l'être humain? Mais prétendez-vous sauver l'homme, la femme, par l'une des créations provisoires de son génie, mettons la science? Est-ce que vous pensez sauver l'homme comme ça par la science? La philosophie? L'art? L'idée? L'État? Vous conduirez à la mort, dit cet auteur. Mais au contraire, si vous prétendez simplement faire de la philosophie, de l'art, de la science, en réservant pour d'autres disciplines le problème total de l'homme et de sa fin, mais vous êtes dans votre droit et vous pouvez courir ce noble risque presque toujours récompensé. En somme, on ne donne pas à l'homme un but simplement au moyen de la science, même seulement au moyen de la philosophie. Non, ça prend la révélation de Jésus. Que tel soit l'enseignement de son fondateur, Jésus, l'Église n'a pas de peine à le prouver, il lui suffit de parcourir l'Évangile. Ce qui intéresse le Christ, c'est l'homme. Tout le reste est subordonné à celui-ci. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers, dit Jésus, s'il vient à perdre son âme? Jésus ne s'arrête pas cependant à la collectivité ou à un groupe d'individus. Il descend jusqu'à chacun d'eux. Même si c'est un enfant, il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Quiconque reçoit en mon nom un seul petit-enfant me reçoit. » Chacun de ceux auxquels il s'adresse prend à ses yeux une valeur absolue, d'ailleurs. Hein? On le voit quand il parle à Saint-Pierre, ou à Nicodème, ou à Lazare, à Sainte-Marie-Madeleine, au bon larron sur la croix. Chacun le préoccupe comme s'il était seul au monde. Il se serait incarné, d'ailleurs, dit-on, pour sauver une seule âme, et c'est vrai, hein? Ce que je me dis parfois, toutes les émissions que je fais, si je sauve une seule âme, je vais être content. Une âme vaut plus que tout l'univers. Toutes les galaxies, tous les milliards de galaxies. Tout ce que la Terre porte. Toutes les œuvres d'art. Tout. Jésus est le bon pasteur. Jésus est le bon pasteur qui recherche une brebis égarée. Il néglige momentanément les 99 autres. La vie divine. Le Christ est venu l'offrir non à l'humanité, non à telle nation, non à telle race, mais à chaque âme de bonne volonté, à chacun d'entre nous, si nous sommes de bonne volonté. Celui qui fait la volonté de mon Père, dit Jésus, mon Père et moi, nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Dans un grand ouvrage intitulé « L'essence du christianisme », on peut lire ceci. Le premier, Jésus-Christ, a mis en évidence le prix de chaque âme individuelle. Et personne ne peut plus ramener ses âmes à leur ancienne misère d'autrefois. Là. Nul ne peut refuser que lui seul a conduit l'humanité vers les cimes, vers les sommets. Vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son message, on peut adopter l'attitude que l'on voudra. Mais une chose est certaine, à dater de ce jour, la valeur de notre race, ou de notre... De ce que nous sommes, c'est l'ancien mot « race », on utilisait ça autrefois. À dater de ce jour, la valeur de notre race s'est trouvée accrue. Le vrai respect de l'homme est, consciemment ou non, sa reconnaissance pratique de Dieu comme Père. Il faut reconnaître que Dieu est notre Père. Et fidèle à transmettre la doctrine du Christ, mais l'Église catholique, elle revendique donc pour chaque individu la priorité sur toutes les valeurs temporelles qui nous assaillent partout, puis qui sollicite l'attention de tous les hommes et de toutes les femmes. N'est-il nécessaire de rappeler que c'est à elle qu'à travers les siècles, depuis 2000 ans, l'esclave, ou la femme, ou l'enfant, le vieillard, le pauvre, le malade, ou l'infirme, doivent avoir été réhabilités aux yeux des autres hommes? Le saviez-vous, ça? C'est l'Église, oui, c'est le christianisme qui a mis en valeur les petits, les saints. Et même la femme, qui n'est pas une petite et une simple, loin de là. Mais on prétend que l'Église ne respecte pas la femme. C'est pas vrai. Depuis 20 siècles, l'Église affirme et exalte la valeur de la personne humaine. Depuis 20 siècles, elle condamne toute idéologie qui fait de l'homme un moyen. À l'État comme à la famille, elle fixe comme but essentiel la conservation, le développement. Puis le perfectionnement de la personne humaine, elle est devenue presque la seule à crier dans cet immense désert dans lequel nous sommes sur cette terre. Quoi d'étonnant dès lors que l'Église catholique soit en but aux attaques de tous ceux qui veulent sacrifier l'homme à l'idole qu'ils ont choisie, hein, le confort, l'aisance, les voyages. On avorte un enfant parce qu'on veut faire un voyage. J'ai entendu ça de la bouche d'une femme que je connais bien. Invraisemblable. Pourquoi fait-elle ça? Elle est inconsciente et elle n'est pas responsable. Elle ne se rend même pas compte tellement elle est inondée d'une propagande où on dit « il n'y a rien là ». Mais l'Église reste inébranlable. Elle défend sans trêve l'imminente dignité de la personne humaine. On a l'impression souvent qu'elle est seule. Alors voilà pour la valeur de la personne humaine, mais il y a aussi la mission de la personne humaine. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, l'homme est créé pour connaître et aimer Dieu. L'homme et la femme sont créés pour coopérer à son œuvre d'amour en mettant en valeur les talents qu'ils ont reçus pour assurer un plus grand bien-être temporel et éternel de l'humanité et mériter ainsi, on le sait, une survie dans l'intimité de Dieu, dans cette vision béatifique. Évidemment, l'objection est courante. On dit, vous, catholiques, vous agissez pour avoir une récompense. Voyons, il convient de répondre tout d'abord qu'il est impossible à l'homme d'être entièrement désintéressé. Ça, on est toujours un peu égoïste dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. On peut pas se débarrasser de ça. On est toujours un petit peu, et souvent beaucoup trop égoïste. Puis qu'ensuite, l'espoir d'une récompense, ça va toujours rester pour beaucoup un stimulant puissant. Hein? Puis qu'enfin, bien, l'Église, elle tâche d'amener ses membres à ne pas faire de la récompense le but de leur activité, c'est sûr, il suffit pour s'en convaincre de rester, par exemple, l'acte de charité, puis l'acte de contrition. Mais on les a oubliés. On ne s'en souvient plus. Et pourtant, apprendre des prières par cœur, ça aide. Qu'est-ce que c'était, l'acte de contrition? Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je fais un ferme propos de n'y plus retomber jamais, moyennant votre sainte grâce. C'est tout beau, c'est tout simple. C'était beau, ces actes de... Et depuis que la rédemption, depuis que la libération a eu lieu, l'homme et la femme ne peuvent remplir désormais leur tâche qu'avec le Christ, dans le Christ et par lui. Et en dehors de lui, rien d'éternel ne s'accomplit vraiment. À celui qui est uni au Christ, tout peut servir à réaliser sa mission terrestre et éternelle. Même, on peut dire que la maladie, je vais aller jusque-là, oui. Je sais qu'il y a beaucoup de malades qui m'écoutent. Je suis moi-même malade actuellement. Bien, la maladie est un moyen de sanctification puis d'apostolat. Comment ça? Quand, du fond de ce dépouillement, on fait comme Reich Samaritain dont je vous ai parlé hier, quand jaillit un amour purifié avec la grâce de l'Esprit-Saint, hein, c'est l'Esprit-Saint qui fait ça, c'est pas nous. La mort elle-même n'est plus un échec hein, pour nous. Dans le Christ, c'est un moyen d'enrichissement pour soi puis pour les autres, puisqu'elle est, comme disait cette sœur, cette Clarisse de Valleyfield dans un film que j'ai fait à Valleyfield avec l'abbé Marcel Brisebois, cette vieille sœur extraordinaire dans son fauteuil roulant qui dit « Mais la mort, mais c'est ce grand saut dans les bras du bon Dieu. » J'oublierai jamais cette parole. On s'étonne parfois que l'Église exalte les contraires, hein, la vie et la mort, la virginité d'une part, puis la fécondité de l'autre. Hein. Elle exalte aussi la maladie, puis la santé. Combien l'Église a fondé d'hôpitaux, fondé des ordres religieux. Les frères de Saint-Jean de Dieu, disons, puis les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, comme on a à Montréal, à l'Hôtel-Dieu, etc. Tous ces hommes et ces femmes, puis tous ces laïcs, ces médecins chrétiens, etc., qui essaient de guérir et de soulager la misère. Hein? Puis l'Église vante aussi d'un côté la pauvreté, puis la richesse aussi, la soumission, puis l'initiative. C'est que tout est moyen pour ceux qui aiment. Si l'Église se montre à tel point catholique, c'est-à-dire universelle, dans sa sympathie à l'égard de ces choses, disons, apparemment contradictoires, c'est qu'elle y voit, elle, autant de moyens de travailler à l'œuvre commune, là, du salut, de la libération de l'humanité, puis de la sanctification de cette humanité. La mission de l'Église est de rappeler toujours, toujours l'essentiel. La mission de l'Église, c'est de traiter le reste comme d'un moyen. Ce n'est pas là une tendance à dénigrer ou à mépriser tout ce qui est temporel, non, c'est la préoccupation de donner à chaque chose sa vraie valeur, hein? Alors voilà pour ce qui est de la mission de la personne humaine. Mais enfin, il y a ce que j'appelle, avec le père Lelotte, l'élaboration de la personne. Pas plus que le monde qui les entoure, l'homme et la femme, ne sont créés dans un état, bon, disons, d'achèvement. Hein? Nous devons tous, avec la collaboration de Dieu, se faire homme, se faire femme, devenir quelqu'un, acquérir notre personnalité propre, pas par orgueil, mais pour accomplir ce que Dieu veut. Ce n'est pas la chose aisée, évidemment. On a vu comment l'homme trouve en lui, en même temps qu'un désir profond d'unité et d'équilibre, une espèce d'anarchie de tendances diverses, et semble-t-il contradictoire, c'est un combat perpétuel qui se déroule en nous. Et le fait d'être inséré dans un monde qui est lui-même inachevé, et c'est pas parfait, puis qui évolue sans cesse, ça facilite pas notre travail. Nous pouvons cependant dégager trois lois qui doivent diriger constamment l'effort de l'homme et de la femme dans la conquête de leur personnalité. C'est tout d'abord la loi du progrès. Oui, puis il y a la loi de l'harmonie, puis il y a la loi du sacrifice. C'est tout d'abord la loi du progrès. L'homme doit se convaincre qu'il a reçu une mission de se parfaire, d'épanouir les talents naturels et surnaturels qu'il a reçus, afin de les faire servir au plan de Dieu. Nous sommes une terre ensemencée, et nous devons nous rendre compte de la moisson. Hein. Il faut rendre compte un jour de la moisson. L'homme est tenu de progresser toujours. Hein. Il ne peut admettre de rester sur place, là, comme figé là. Même dans l'inaction forcée sur un lit de douleur, l'homme et la femme doivent progresser et s'offrir davantage à l'amour de Dieu, pour la sanctification de leurs semblables et leurs siennes propres. On ne peut jamais se croire arriver à la perfection en aucun domaine, et un chrétien ne s'assoit pas intérieurement, il est debout intérieurement. Il va de l'avant vers Dieu. Un être vivant n'est pas une pensée réalisée une fois pour toutes. C'est une pensée qui se réalise. C'est une idée qui dirige une évolution vitale. Pensons à l'élan vital d'Henri Bergson. C'est pas le fruit de l'imagination du philosophe. C'est l'interprétation de ce jaillissement, si on peut dire, de forme de plus en plus évoluée que nous montre l'histoire du monde. Mais il ne suffit pas à l'homme de développer au hasard toutes les bonnes tendances qu'il trouve en lui. Car un développement exagéré de certaines d'entre elles, ça peut nuire à l'ensemble. Alors la liberté est accordée à l'homme pour lui permettre en particulier de donner à chaque chose sa place et sa valeur. Hein? Alors je vous disais que la liberté est accordée à l'homme et à la femme pour leur permettre en particulier de donner à chaque chose sa place et sa valeur. Et cette harmonie qu'il s'agit d'établir en nous, Dieu la propose. Le corps et les sens, pénétrés d'esprit, est soumis à la volonté. C'est comme ça qu'il y a l'harmonie. L'intelligence accessible à toute vérité, si dure soit-elle. Il faut lire l'Évangile puis aller jusqu'au creux. Et puis il y a la volonté qui doit être soumise à Dieu. Et docile, docile aux inspirations de la conscience que nous avons tous. Puis de la grâce, tout ça dans l'amour. Souvenez-vous de la lecture que j'ai faite au début de l'émission. La lecture qui est aujourd'hui à la messe. Et puis la vie terrestre tout entière qui doit être orientée vers la vie éternelle et qui commence dès ici-bas, la vie éternelle. C'est cet équilibre qu'il nous faut retrouver. Il faut retrouver ça. Les gens l'ont perdu, c'est pour ça que la vie ne veut plus rien dire pour tant de gens, puis que le monde trouve ça, excusez l'expression, mais trouve ça plate. Pourquoi vivre? C'est plate. Mais quiconque veut réaliser le type parfait, humain, devra donc se développer harmonieusement pour créer de l'harmonie, pour accorder à l'humain là, la primauté sur l'animal. Il faut acquérir la maîtrise de soi. Il faut soumettre à Dieu toute son activité afin de mieux aimer et de mieux servir les hommes et les femmes. Et nous, comme dans, en nous, comme dans la nature, Dieu répand ses dons, beaucoup de dons. De même, nous avons tellement de talents qui seront jamais développés en nous. Oh, les savants nous disent ça de plus en plus, hein. nous aurait été possible, pour beaucoup d'entre nous, de nous distinguer dans un art, dans une science ou une carrière. Mais souvent, on n'a pas eu la chance, et ou bien on n'a pas l'occasion. Il y a des événements importants, ou plus souvent encore, toutes sortes d'événements impondérables, qui ont orienté notre vie dans un sens imprévu. Il a fallu choisir, et dès lors sacrifier ce que nous n'avons pas choisi. Cette idée de sacrifice, ça effraie beaucoup de monde de nos jours, mais il importe de remarquer qu'à tout moment, l'homme doit faire des sacrifices. Oui, nous devons tous faire des sacrifices. Disons qu'un sculpteur et qui taille un bloc, il fait le sacrifice des éclats qui tombent par terre. Ben oui, mais il va avoir une belle sculpture. J'espère que ça va être belle. Le touriste, quand on circule en auto, moi j'en ai pas d'auto, mais enfin, quand on circule, si on prend la route à gauche, on sacrifie celle de droite. Un musicien qui prend un engagement comme flûtiste, il renonce à jouer du hautbois. C'est évident, des petits sacrifices. Mais la loi du sacrifice s'impose à tout. Un jeune homme qui veut garder un regard clair puis une âme pure, de même une jeune fille, ils doivent sacrifier la porno. Les conversations cochonnes. Je m'excuse de l'expression encore une fois, mais c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Il doit sacrifier les amitiés douteuses, les désirs mauvais, les actes coupables. Il doit se concentrer sur une vie noble et simple et vraie. Et ses études, mais celui qui préfère au contraire s'abandonner à toutes ces tendances plus ou moins malsaines, il va sacrifier la joie de rester honnête. Il va perdre la liberté intérieure puis la paix de sa conscience. Il perdra le vrai bonheur, le seul vrai bonheur, et ainsi donc, on ne peut échapper à cette nécessité du sacrifice, et c'est pour ça qu'il devient raisonnable d'accepter toutes les privations qu'exige le développement harmonieux de nos facultés. Nos facultés corporelles comme nos facultés spirituelles, hein, il convient même de rechercher tout sacrifice qui serait pour nous, disons, une source d'enrichissement, de progrès, puis d'harmonie, quoi qu'il en coûte. Pensons aux vrais sportifs qui sacrifient des tas de choses, les artistes interprètent aussi. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Humanisme chrétien, seul humanisme intégral, tant à réaliser dans chaque homme et dans chaque femme, le type idéal tel que Dieu l'a conçu, hein. L'éducation chrétienne, elle a pour but, en définitive, d'amener celui ou celle qu'on veut élever à se soumettre volontairement à ces trois lois. D'abord, lui inculquer le devoir de progresser sans cesse. On doit amener aussi les jeunes à développer harmonieusement leurs facultés, en conformité avec l'idéal qu'ils poursuivent. Puis, on doit leur faire accepter comme raisonnable les sacrifices qu'un tel idéal exige. C'est raisonnable. Dans tout cela, bien dans le cadre de l'amitié de Dieu, afin de mieux se consacrer au bonheur temporel et éternel de toute l'humanité. Mais de nouveau, le mot de sacrifice, le problème déjà indiqué se pose à nouveau. Et les valeurs chrétiennes puis les valeurs humaines sont-elles vraiment compatibles? Est-ce qu'il faudrait pas sacrifier les valeurs humaines aux valeurs chrétiennes? Non, non. La jeunesse tout particulièrement, qui sent la vie bouillonner en elle et qui rêve de l'épanouir au maximum, elle craint de se diminuer en se donnant totalement au Christ, et pourtant, grand Dieu, c'est tout le contraire. Regardez ceux qui se donnent. Avez-vous entendu l'entrevue avec le curé de la paroisse, d'une paroisse de Montréal, Saint-Louis de France, l'abbé de Maupoux, Philippe de Maupoux, dimanche à 3h, c'était tellement beau, ce jeune homme est encore dans la trentaine, a expliqué admirablement bien le bonheur dans lequel il est d'avoir tout sacrifié. A-t-il tout sacrifié? Il a tout reçu. Vous montrerez que la doctrine du Christ, puis dès lors celle de l'Église, respecte et exalte les valeurs humaines. On verra ça au cours de plusieurs autres émissions au cours du mois. C'est grandiose que la foi chrétienne, elle nous donne tout, et Jésus dit aujourd'hui, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. C'est très exigeant. L'amour est exigeant. Hein? Renoncer à sa propre vie, c'est-à-dire accepter de ne plus être son propre maître pour cheminer avec celui qui est désormais notre maître et seigneur, c'est ça que ça veut dire. Dieu ne souhaite pas mutiler notre personne. Il veut nous faire mourir à la mort. Oui, il veut nous faire mourir à la mort pour nous faire vivre de la vraie vie. Au fil des ans, nous allons découvrir que l'exigence de Dieu, c'est encore une grâce, les exigences de Dieu. C'est la source du bonheur, ces exigences.